Donc c'est un
homme. J'ai lu quelque part, je sais pas si, excusez-moi de vous interrompre, mais je sais pas si c'est vous qui l'avez dit, mais lire Borges rend intelligent. Ouais. Donc je crois que je vais me précipiter. Ouais, oui.
C'est vrai, tous les gens qui le disent, ouais, parce que il a un grand respect pour son lecteur.
Ouais.
Vous savez, c'est comme au théâtre, il y a des auteurs dramatiques, je ne cite jamais de nom parce que je me ferai des ennemis, mais il y a des auteurs dramatiques qui disent public, idiot, il veut rigoler, ouais, et puis on lui sert une soupe tiède et fade, et puis d'autres auteurs qui pensent que le public est intelligent. Et Mario Diamant pense que le public est intelligent. Et il a raison, parce que finalement c'est payant.
Mais alors pourquoi Borges ?
Alors ça, je ne sais pas.
Bon.
Et je pense qu'il est attaché. Pourquoi Heidegger et Hannah Arendt, sa pièce précédente,
oui.
C'est sans doute qu'il est intéressé. Il faut penser aussi, et c'est très essentiel, que Borges est argentin.
Mm.
C'est quand même l'écrivain argentin le plus célèbre.
Oui.
En Amérique latine, bon, il y a Gabriel Garcia Marquez, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs très, très célèbres en Amérique latine.
Neruda,
il y a eu des prix Nobel.
Oui, oui.
Donc, il s'est intéressé quand même à un héros national, si je puis employer ce terme.
Alors, tout à l'heure, on parlait justement de votre rôle. Comment vous l'avez travaillé alors?
Écoutez, d'abord, j'ai assuré la mémoire parce qu'il y a énormément de textes, comme vous l'avez remarqué. Et j'ai assuré la mémoire et puis j'ai essayé de faire en sorte que, sans être cuistre, ce personnage explicite par sa diction ce qu'il dit. C'est-à-dire, si je parle à toute vitesse en me débarrassant du texte, on ne comprend rien.
Ouais.
Mais je l'ai décomposé. J'ai décomposé fragment par fragment, comme si c'était une démonstration adressée à des gens qui ne connaissent ni la physique ni la philosophie et à qui on dit, voilà, je prends une métaphore, la caverne de Platon, ou je prends telle métaphore, je vous l'explique, il y a tel personnage, il y a ça. Donc il faut aller lentement en ayant l'air de parler normalement. C'est la difficulté du rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pontifiant, il ne faut pas être didactique, ni moralisateur. Il faut qu'on ait l'impression qu'ils sont dans un jardin qui sent bon le printemps. Et qui parle de choses et d'autres. Et il parle de choses et d'autres qui sont finalement la trame de toute la pièce.
Alors, en quoi l'apport musical joue-t-il un rôle important dans cette pièce? Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait un apport très intéressant.
Très intéressant parce que c'est une musique qu'on pourrait dire folklorique. C'est la musique d'Argentine.
Oui.
Et donc, elle permet de marquer le passage d'un tableau à un autre, comme ici à la Huchette, il n'y a pas de tableau tournant, il n'y a pas de décor qui descend des cintres, on ne peut pas faire comme au Châtelet, de la grande mise en scène. Il suffit simplement qu'il y ait une atmosphère. Et qu'est-ce qui donne le plus une atmosphère d'une œuvre? C'est la musique, quand même. Elle est nostalgique, elle est prégnante. Elle est du pays même, l'Argentine. Donc, elle permet, entre les tableaux, de montrer que le temps a passé.
Et donc, une scénographie qui est minimaliste. Finalement, la pièce n'a guère besoin d'une scénographie.
Il y a une projection, une sorte de transparence qui montre que il y a des feuilles derrière. Et puis, à un moment, chez la psychologue, il y a une fenêtre, mais on s'est dit que cette pièce, étant donné qu'elle est jouée au théâtre de la Huchette, c'est comme un gros plan de cinéma. C'est-à-dire, on nous regarde beaucoup. Il faut qu'on sache qu'il ne faut pas en faire trop. On est comme au cinéma, en gros plan.
C'est vrai. Alors, là, je vais vous demander un peu qu'on s'écarte un peu de la pièce et puis vous poser une question un peu plus personnelle, pardonnez-moi, mais avez-vous eu une expérience comparable à celle de votre personnage, c'est-à-dire une relation fantasmée qui...
Non. J'ai joué, comme je vous le disais, j'ai joué mes pièces et à chaque fois que je les ai écrites, mes pièces, je n'ai jamais pensé, mais je vous demande de me croire, je n'ai jamais pensé à moi dans un rôle. Je n'ai jamais écrit un rôle en disant « je vais jouer moi ». Alors, à chaque fois, je l'ai proposé à des acteurs qui m'ont dit oui. Alors, quand c'était en 2000, ils me disaient « je serai libre en 2010 ».
Ouais.
Ou quand c'était en 2005, ils disaient « je serai libre en 2015 ». Donc, des moments, des metteurs en scène me disent « mais écoute, je te trouve bon acteur, pourquoi tu ne jouerais pas le rôle ?» Alors je dis « bon, ben, j'y vais ». Mais j'y vais sans jamais me mettre en avant, j'y vais parce que je me dis « c'est un peu par manque, ben, c'est un palliatif, disons ». Et puis, je travaille tellement, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, le texte, jusqu'à ce qu'il soit en moi comme un second moi-même, que finalement, je l'assume bien. On n'a jamais dit que j'avais déformé une de mes pièces ou nuit à un texte que j'ai dit sur scène.
Et que pensez-vous justement des occasions de rencontres ratées comme dans la pièce?
Ah, écoutez, c'est quelque chose qui me fascine complètement.
Ouais.
Je me dis, moi je suis tout le temps en train de me dire, mais si j'avais couru un peu plus vite, j'aurais attrapé ce bus, et si j'avais attrapé ce bus, je n'aurais pas attendu le suivant, dans lequel il y avait une amie que je n'ai pas vue depuis 20 ans, et qui me dit « Victor, qu'est-ce que tu deviens ?» etc. Donc tout est tellement bizarre dans les rencontres. Moi, je vais vous dire, j'étais journaliste dans un quotidien économique qui s'appelait La Formation, qui a disparu depuis des années, mais qui était un quotidien sérieux, très très austère. Mais il y avait une page qui était consacrée un peu à des choses en dehors de la finance et de l'économie, et qu'on appelait la page culturelle. Alors je me rendais compte d'exposition ou de musique, j'allais au concert. Et c'est parce que j'allais au concert qu'un mercredi soir du mois de février 1963, j'ai décidé d'aller au concert parce qu'il y avait un jeune soliste qui jouait Mozart et que la future mère de mes enfants, qui n'avait aucune raison d'être là, mais qui était danseuse, qui avait un jour de relâche, ce même mercredi soir, elle regarde les programmes et elle dit « Tiens, il y a Mozart, elle y va aussi ». Je la vois et je l'aborde et je tombe fou amoureux de cette femme. Et je lui dis que je ne la quitterai pas, etc. Bon, elle hésite, elle se dit « Qu'est-ce que c'est que ce phénomène excité, ce gros dragueur, tout ça ?» Pas du tout. J'ai dit « C'est la mère de mes enfants. Elle est devenue la mère des enfants. Nous sommes mariés. Nous sommes restés 20 ans ensemble. » Et je me suis dit, tout ça parce que, à un moment donné, nous avons ouvert un programme genre officiel des spectacles,
un petit peu,
et on voit les concerts. Si j'avais vu d'autres concerts, je ratais cette femme. Mes deux filles, qui sont là maintenant, qui sont mères de famille, dont je suis grand-père, ne seraient pas là. Tout est à revoir, tout est à refaire. Donc on se dit, mais à quoi ça tient? À quoi ça tient? Imaginez que ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, un des solistes qui jouait un concerto de Mozart, je crois que c'était le 21e, que j'adore, comme tous les concertos de Mozart, de piano, on disait, il ne joue pas, il a un petit malaise, il a une bronchite, il ne joue pas. Je ne rencontre donc pas cette femme. Et aujourd'hui, c'est une vie tout à fait différente. Donc ça a tenu à quoi? Des choses infimes. En plus, moi j'étais marié, donc il a fallu que je remette en cause mon premier mariage, que je divorce, que j'épouse cette femme, qu'on ait deux enfants, deux filles, dont l'une fait carrière, comme vous le savez peut-être, Mathilde Amet, et qui va avoir son spectacle repris au mois de mai à Paris. Et tout ça. Et je me dis, mais tout ça, ça a tenu à quoi? Vous voyez? Et donc, la pièce m'a séduit à cause de ça.
Ben oui. Alors, parmi toutes les casquettes que vous portez, que vous avez portées, laquelle a eu votre préférence ou a votre préférence?
C'est évident que quand on me demande mon métier, je dis que ce soit...
Auteur.
auteur, c'est une évidence.
Ouais.
J'ai commencé en province, à Nantes, à rentrer au conservatoire pour être acteur. Mais je vais vous dire que j'avais tous les défauts qu'il ne faut pas avoir pour être acteur. C'est-à-dire extrêmement appuyé sur moi-même, sans diction, sans voix, une présence inhibée par ma timidité. Donc au bout de 2 ans de conservatoire à Nantes, sans diplôme, je suis sorti de là en disant « je ne serai jamais acteur ». Et j'ai commencé à avoir envie de faire du dialogue, d'écrire. Alors j'ai écrit des pièces sartriennes, d'abord très engagées, très, très manichéennes, les bons, les méchants, etc. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à bien connaître mon métier d'auteur. J'ai eu des succès, j'ai eu des moyens succès, des échecs, comme tout auteur. Jusqu'en 76, où j'ai écrit une pièce pour un acteur. Pour rien vous cacher, c'est Michel Bouquet. C'est pas rien.
Ben non.
Il l'a lu, il m'a appelé, il m'a dit « Victor, je joue ta pièce ». J'ai dit « j'ai des fous de joie ». Je me suis répandu dans tout Paris, Michel Bouquet va jouer ta pièce. Sauf que le directeur du théâtre, c'était Étienne Biry, qui dirigeait le théâtre de Poche. Et il m'a dit « mais nous, on ne peut pas payer Michel Bouquet au théâtre de Poche. On a 95 places. » Et Bouquet, il remplit des salles de 1000 places. Et par conséquent, on ne pourra pas le payer, ça ne pourra pas se faire, là. Alors j'ai dit, bon, il faut trouver un acteur. Il dit, mais on l'a trouvé, Victor. Alors j'ai dit, ah bon, alors dites-moi qui. Il me dit, c'est Victor Haïm. Mais j'ai cru que c'était une plaisanterie. J'ai cru que c'était une plaisanterie. Et finalement, en 76, l'année d'une grosse canicule, où on était en eau tellement transpiré, j'ai répété pendant tout l'été Isaac et les sages-femmes que j'avais écrit pour Bouquet et je l'ai joué. Et les critiques qui sont sorties ont été très favorables sur la pièce, quelquefois moyennement favorables, mais sur l'acteur, il s'était dit tyrannique. Alors je me suis dit, mais finalement, je me suis peut-être trompé, je suis peut-être plus acteur qu'auteur. En fait, je peux mélanger les deux, puisque j'ai joué Velouté, j'ai joué La Visite, j'ai joué Accordez-vous violon, qui a été joué d'ailleurs en Amérique latine, Finanzo Violines. Donc, je me suis dit qu'au fond, acteur-auteur, c'était pas mal. Il y en a beaucoup. François Billédou était un très bon acteur, Roland Dupillard est un très bon acteur, Jean-Claude Grimbert est un bon acteur, et Yasmina Reza est une très bonne actrice. Et Denise Chalem est une très bonne actrice. Donc, voilà des cas d'acteurs qui sont aussi auteurs et qui servent très bien leur propre texte, mais qui sont, je ne sais pas s'ils sont aussi en retrait que moi comme acteur, mais je me plie tout à fait au désir et j'ai pas de conflit avec les metteurs en scène quand ils me dirigent. Ce qui prouve que je suis quand même tout à fait à l'écoute de ce qu'ils me disent, même s'ils me disent des choses que auxquelles je ne pensais pas quand j'ai écrit la pièce.
Alors, est-ce que vous avez d'autres projets ?
Oui, alors, au mois de mai, Simon Hein, qui est sociétaire honoraire de la Comédie Française, va lire 2 fois au studio théâtre de la Comédie Française au Louvre. Il va lire une pièce qui s'appelle « Délicieuse cacophonie », qui n'a pas de titulaire, si vous voulez, mais il fait 2 lectures devant du public pour éprouver le texte. Et du vrai public. Et puis, j'aurai 2 pièces au Festival d'Avignon, dans le Off, qui sont reprises. La Face du hasard, qui fut créée par Fabrice Lucchini et Andrea Ferréol en 88, 86, je crois que c'est 86. Donc, une pièce très ancienne, qui va être reprise par des bons acteurs dans le Off. 2 pièces, donc. Et La femme qui frappe, par une excellente actrice aussi. Et puis peut-être que cette pièce qui sera lue, donc, mais lue, incarnée, c'est pas une lecture comme ça avec des lunettes, par Simon Hein, qui est un excellent acteur et qui est maintenant sociétaire honoraire. Voilà. Alors donc, j'ai ça, puis j'ai ressorti une pièce qui date de 72. et qui s'appelle Les Vampires Subventionnés, Violena ou les Vampires Subventionnés, et qui intéresse une compagnie qui en a fait un montage formidable. Ils vont faire une présentation dans quelques temps dans un théâtre parisien.
Merci beaucoup, Victor Haïm, pour cet très intéressant entretien.
Merci à vous.